Bonjour à tous. Je pense que vous avez dû trouver à l'entrée de cette salle non seulement une feuille relative à la conclusion de notre parcours, mais aussi une feuille verte, qui est une feuille d'évaluation de l'enseignement. Si vous souhaitez, donc, vous pouvez remplir cette feuille aujourd'hui ou plus tard, peu importe, et puis la déposer dans une urne qui se trouve à côté de l'accueil, à côté du standard. Je voudrais d'abord terminer le dernier chapitre de ce cours. J'avais parlé l'autre jour de la relation du Christ ressuscité avec l'histoire. Il me restait à dire quelques mots sur la dernière section, ce que j'avais intitulé « La parousie du Christ à la fin ». Parousie. Parousie, j'ai repris le mot technique, en quelque sorte, hein, qui est forgé sur le grec parousia, parousia qui signifie la présence, la venue, hein, la venue du Christ à la fin. En un premier sens, bien sûr, la parousie du Christ ou la venue du Christ, elle advient dès maintenant, en tous ces membres de l'humanité qui accueillent sa présence dans leur vie. Pensez à ce qu'on lit dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Le Christ ressuscité se tient à la porte de tous et de chacun et il frappe à cette porte. Et il est possible, dès maintenant, de l'accueillir. Cependant, quand on parle de la parousie du Christ, on pense en général plutôt à la dernière venue, ou la venue définitive du Christ à la fin de l'histoire. Une venue que les tout premiers chrétiens attendaient comme une venue proche. La première génération chrétienne était habitée par l'idée, l'espérance que le Christ ressuscité revienne très vite dans la gloire. Toutefois, dès la première génération chrétienne, on s'est avisé du fait qu'on ne connaissait pas l'heure de cette venue ultime du Christ dans la gloire. L'attente fervente des premiers chrétiens s'exprimait à travers ces formules bien connues, « Maranatha, viens Seigneur Jésus, notre Seigneur vient », formule que l'on trouve d'ailleurs dans le Nouveau Testament lui-même, une formule araméenne, on trouve ça dans la première épître aux Corinthiens et puis dans l'Apocalypse. Mais très vite, dès la première génération chrétienne, on s'est avisé que cette venue n'était pas forcément immédiate. Et c'est intéressant de voir que Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, s'en prend déjà un petit peu aux chrétiens qui, sous prétexte de l'espérance d'une venue proche du Christ, restaient oisifs et sans rien faire. Et il leur dit « Travaillez, vous ne savez pas quand le Seigneur viendra. » Au bout de quelques années, donc, très tôt finalement, les premiers chrétiens se sont rendus compte qu'ils ne devaient pas nécessairement attendre une fin imminente et on a donné par la suite un nom relativement technique au fond à cette situation qu'ils ont connue, qu'ils ont éprouvée, on l'a appelé le retard de la parousie. Voilà, cette expression, le retard de la parousie, une expression qui a été forgée par la suite pour rendre compte de, au fond, ce qui a marqué très vite les premiers chrétiens, les premières générations chrétiennes. La parousie, cette venue ultime du Christ que l'on attendait comme toute proche, eh bien, en fait, elle ne venait pas tout de suite. Il y avait comme un retard de cette manifestation ultime. Il y avait du même coup le risque que la perspective de cette venue ultime du Christ ne se trouve quelque peu occultée, Voilà. Ce qui est très beau dans le témoignage de la toute première génération chrétienne, c'est la ferveur de l'attente. Bien sûr, les premiers chrétiens se trompaient en s'imaginant que la venue ultime du Christ serait toute proche, mais leur attitude témoignait néanmoins d'une très très grande ferveur, sinon même parfois d'une impatience de cette venue du Christ. Alors, il leur a fallu admettre que cette venue ultime du Christ ne serait pas pour tout de suite, mais du coup, il y avait le risque, au fil des générations, au fil des siècles, que la ferveur de l'attente n'en soit en quelque sorte atteinte. Et en réalité, quand on prend un peu de recul par rapport à ce qu'a été l'attente de la fin dans l'histoire du christianisme, on pourrait dire que cette attente, lorsqu'elle a été bien comprise, elle ne l'a pas toujours été, a été marquée par une double tension. Et cette tension doit être considérée aujourd'hui encore comme constitutive de l'eschatologie chrétienne. L'eschatologie, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la fin. Double tension constitutive de l'eschatologie chrétienne. La première tension, c'est une tension entre le déjà de la résurrection et un pas encore, le pas encore de la venue dans la gloire. Voilà. On avait déjà vu cela à propos de Saint Justin au IIe siècle. Saint Justin qui disait, il y a eu une première manifestation du Christ, première parousie du Christ, mais nous sommes en même temps tendus vers une autre parousie, une seconde parousie. Cette tension est absolument essentielle. Je dis bien, quand l'attente de la fin a été bien comprise en christianisme, on a fait droit précisément à cette tension. Ce qui veut dire qu'à l'inverse, on a cessé d'y faire droit de deux manières. Soit en insistant sur le déjà là, la première parousie, d'une façon telle qu'on ne prenait plus assez au sérieux l'attente de la venue ultime, soit au contraire, en espérant et en attendant cette venue ultime d'une façon qui ne respectait pas suffisamment la nouveauté déjà advenue dans l'histoire, la nouveauté de la première parousie. Donc, loin de ces deux attitudes extrêmes, il s'agit, quand on réfléchit en christianisme sur la fin, eh bien, il s'agit de tenir cette tension entre le déjà de la première parousie et l'attente de la venue dans la gloire qui, elle, n'est pas encore advenue. C'est en fait la liturgie qui, de façon privilégiée, nous met sur le chemin avec l'anamnèse. L'anamnèse eucharistique est constitutivement marquée par le souvenir de ce qui est déjà donné, souviens-toi de Jésus-Christ mort et ressuscité, et par l'attente et l'espérance de sa venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. La seconde tension qu'il est essentiel de tenir quand on réfléchit en christianisme sur la fin ultime, c'est la tension entre l'attente de cette fin et l'ignorance de son heure. Là encore, c'est une tension qui, dans l'histoire, n'a pas été facile à tenir. Parce que il y a eu régulièrement, à toutes les époques, et ce n'est pas fini, des gens qui vous ont certifié que la fin du monde, que la seconde venue du Christ aurait lieu, en 364, ou en 787, ou en 1365, ou en 2012, ou en 2015, je ne sais pas. Je ne sais plus où on en est maintenant. Il y a toujours des gens qui régulièrement vous disent, ce sera voilà, le 13 novembre, le vendredi 13, quelque chose, voilà, c'est encore mieux. Bien non, on ne sait pas. Vous savez, dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, Jésus dit « Le Fils de l'homme lui-même ignore l'heure, il ne sait pas l'heure. » Alors, en même temps, l'extrême inverse, c'est que sous prétexte qu'on ignore l'heure, on fait ce qu'on veut. De toute façon, on ne sait pas quand ce sera, donc jouissons de la vie. Ça ne va pas non plus. Mais évidemment, les deux écueils ont existé, et peuvent toujours exister à nouveau dans l'histoire du christianisme. Et en réalité, pour échapper à ces deux écueils, eh bien, il faut tenir cette tension, cette seconde tension constitutive de l'eschatologie chrétienne. Que l'attente fervente de la seconde parousie ne soit pas un alibi, en quelque sorte, pour indiquer, déterminer l'heure de cette fin, puisque cette heure, nous ne la connaissons pas, mais que, inversement, le non-savoir, l'ignorance de cette heure, ne soit pas un alibi pour se comporter comme s'il n'y avait pas eu la nouveauté de la mort et de la résurrection du Christ dans notre histoire. Il s'agit de tenir vraiment cette seconde tension, elle aussi essentielle à l'eschatologie chrétienne. Teilhard de Chardin avait cette belle formule, la parousie viendra vite si nous la désirons beaucoup, ou si nous l'attendons beaucoup. Très belle formule, mais justement, Teilhard ne se prononçait absolument pas sur l'heure, sur le moment de cette parousie. Une fois cette double tension reconnue et identifiée, et elle garantit l'authenticité d'une véritable eschatologie chrétienne, là où elle est respectée, une fois que cela est reconnu, alors le thème de la seconde venue du Christ, ou de sa seconde parousie, appelle, selon le Nouveau Testament, deux considérations. Il y a une première considération qui est liée à quelques versets très énigmatiques du chapitre 20 de l'Apocalypse. J'avais donné le texte de ces versets dans la feuille que j'avais distribuée l'autre jour. Apocalypse, chapitre 20, versets 4 à 6. « Les justes revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant l'accomplissement des 1000 ans. C'est la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas d'emprise. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant les 1000 ans. » C'est un texte d'interprétation difficile. Il laisse donc entendre qu'il doit y avoir une première étape, en quelque sorte, une première phase avant la fin ultime de l'histoire. Première phase pendant laquelle les justes régneront pendant 1000 ans en présence du Christ et avec lui, régneront sur terre pendant 1000 ans en présence du Christ. Si ce texte est interprété de façon trop littérale, ou s'il est transposé d'une façon indue, il donne lieu à des positions qui sont non seulement erronées, mais même parfois dangereuses. Ce sont les interprétations, les positions que l'on qualifie de millénaristes, positions millénaristes. Déjà dans l'Antiquité, il y avait des formes de millénarisme, par exemple des gens qui, dans les déserts d'Égypte ou autour d'une oasis, s'imaginaient que voilà, ils allaient vivre en quelque sorte quelque chose de ce règne de 1000 ans avec le Christ, sans réaliser que l'histoire continuait, que ce n'était pas encore la fin ultime de l'histoire. Et ces gens-là ont été justement contredits par des pères de l'Église, comme Origène par exemple. Mais surtout, les millénarismes ont existé à l'époque moderne sous une forme laïcisée. Au fond, toutes ces évocations d'un lendemain radieux sur Terre, où il n'y aurait plus d'injustice, plus de violence, et où les justes, tous ceux finalement qui auraient surmonté les catastrophes de l'histoire, pourraient, au fond, jouir d'un bonheur entre eux. Voilà, une version laïcisée du millénarisme. Et je dis c'est dangereux, parce que ça a pu être, au fond, le tremplin de certaines idéologies, telles que le marxisme sous sa forme pure et dure, et surtout le nazisme, la société idéale telle qu'elle était envisagée par Hitler. Donc il faut évidemment refuser radicalement ce genre de dérive millénariste, qui d'ailleurs ne se référait plus explicitement au texte de l'Apocalypse, hein, mais c'était un peu le schème sous-jacent, le schème d'un règne des justes sur terre, voilà, à la fin des temps. Mais une fois que cela est dit, il faut par contre essayer de retrouver la vérité profonde qui est en jeu à travers ces quelques versets de l'Apocalypse. Il y a un père de l'Église, saint Irénée, à la fin du IIe siècle, qui a été très sensible à cette formulation du chapitre 20 de l'Apocalypse. Irénée considérait en effet qu'il y aurait en quelque sorte une sorte de fin dans l'histoire avant la fin ultime de l'histoire. Voilà. Il considérait qu'il y aurait effectivement une période avant la fin ultime pendant laquelle les justes vivraient sur terre avec le Christ revenu dans la gloire. Voilà. Évidemment, cette position d'Irénée a été discutée, elle a été contestée, parce que bon, sa faiblesse, sa limite, c'est de prendre sans doute trop littéralement le texte de l'Apocalypse. En même temps, chez Irénée, elle avait une profondeur, cette idée. Il y avait sans doute une erreur d'interprétation, dans la mesure où c'était un peu trop littéral, mais à travers cette erreur même d'interprétation, Irénée avait à l'esprit quelque chose de très profond, à savoir qu'il y allait pour lui de la cohérence du dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, à l'origine, c'était quand même que les humains puissent vivre comme des justes en présence du Christ sur terre. Alors, ce dessein n'a pas pu se réaliser comme tel du fait de la chute, du fait du péché, mais pour Irénée, il y va en quelque sorte de l'accomplissement des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Il faut qu'il y ait au moins une période à la fin de l'histoire, mais avant la fin ultime, une période pendant laquelle les justes pourront vivre en présence du Christ sur cette terre. Et puis quand on y réfléchit, on voit bien que, pour justement tenter d'apprécier la profondeur de la vision de saint Irénée, même s'il a fait une erreur dans la mesure où il a interprété trop littéralement les versets de l'Apocalypse, pour apprécier la profondeur de sa vision de fond, on peut se rappeler tout simplement la prière du Notre Père. Hein, quand on dit dans le Notre Père « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », qu'est-ce que c'est la volonté? Qu'est-ce que c'est la volonté du Père? C'est justement que nous vivions comme des justes sur la terre, hein, ce qui est loin d'être le cas universellement, bien évidemment. Hein, quelque chose de cela quand même qui est anticipé, malgré tout, là où des hommes et des femmes accueillent dès maintenant la présence du Christ et de son Esprit. Voilà. Ainsi entendu, dans cette perspective, la venue du Christ, au fond, est à entendre comme quelque chose qui accomplit, au fond, le meilleur de l'espérance de l'humanité, sur le fond de la révélation biblique. Quoi qu'il en soit, en tout cas, de cette fin dans l'histoire, mais avant la fin ultime, quoi qu'il en soit de l'interprétation, encore une fois, délicate, hein, de ces quelques versets de l'Apocalypse, il est sûr qu'il y aura, selon le témoignage du Nouveau Testament, un accomplissement ultime à la fin de l'histoire. Hein, c'est le second versant, en quelque sorte. Seconde phase, hein, un accomplissement ultime à la fin de l'histoire. Alors, c'est ce qui est justement évoqué dans la suite et tout à fait à la fin de l'Apocalypse. Et c'est ce qu'on trouve dans bien d'autres textes du Nouveau Testament, en particulier au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Il doit y avoir une fin de l'histoire, une fin ultime de l'histoire. Et les textes du Nouveau Testament autorise à dire plus précisément que la fin de l'histoire, au fond, est pensée de façon en quelque sorte analogue à ce qu'il en a été pour le Christ lui-même. Un passage par la mort et une résurrection. On peut s'arrêter un tout petit peu plus sur ce que dit Paul au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Je lis le texte. Donc tous recevront la vie. Ensuite viendra la fin. Il s'agit bien cette fois de la fin ultime. Ensuite viendra la fin quand le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et, un peu plus loin, quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, pour que Dieu soit tout en tous. Si on réfléchit donc sur ces quelques versets de la première épître aux Corinthiens, on comprend que dans cette fin ultime, dans cet événement final de l'histoire, il y aura en quelque sorte deux éléments, deux composantes, deux phases, si on peut dire, si ça a encore du sens hein, d'utiliser ce langage temporel. D'une part, le Fils présentera au Père tout ce qui lui appartiendra, c'est-à-dire tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui aura été soumis à son action, tout cela, le Fils le présentera au Père, et, seconde phase, Dieu recevra ce don en lui donnant la plénitude ultime, et alors, dit saint Paul, Dieu sera tout en tous, Dieu sera tout en tous, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'obstacle à l'action de Dieu. On voit bien que par ces mots, tout, tous, Paul emploie des expressions qui englobent plus que la simple humanité, des expressions qui ont une portée, une signification cosmique. C'est à travers et à partir de cette ultime transformation qu'un univers nouveau sera constitué. C'est frappant de voir que la tradition apocalyptique, hein, telle qu'on la trouve déjà dans l'Ancien Testament, puis c'est repris par le Nouveau Testament, la tradition apocalyptique parle d'une nouvelle création. Nouvelle création. Un univers nouveau. Alors, un univers nouveau qui est déjà inauguré par, précisément, la chair glorifiée, inaugurée dans la chair glorifiée du Fils de l'homme, mais la transformation, le renouvellement, la rénovation dont il s'agit devra atteindre le monde, l'univers entier. Il y a beaucoup d'images dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien et surtout dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'images qui évoquent ce moment ultime de la fin. Ces images ne sont pas à entendre comme une sorte de description, comme on voit souvent dans les films de science-fiction. Enfin, c'est pas du tout un scénario qui entendrait décrire ce qui se passera effectivement. Ce sont que des images, ce sont que des métaphores. Et ce sont des images et des métaphores qui doivent être interprétées, comme je disais tout à l'heure, à la lumière de la mort et la résurrection du Christ. La clé de toute eschatologie chrétienne, c'est la christologie. Ce qui garantit l'authenticité d'une eschatologie chrétienne, c'est sa cohérence avec ce que nous croyons déjà à propos du Christ mort et ressuscité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de même que le Christ est passé par la mort, de même que tout être humain est passé ou devra passer par la mort, de même, le monde, l'univers, devra un jour passer par la mort. Mais, de même aussi que le Christ ressuscité a définitivement vaincu la mort, de même, la venue du Christ dans sa phase ultime sera le moment d'une nouvelle création. Comme dit l'Apocalypse de Jean, un ciel nouveau et une terre nouvelle, Jérusalem nouvelle, la demeure de Dieu avec les hommes, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Au fond, la parousie, la seconde parousie du Christ, la parousie ultime du Christ, sera la manifestation de la victoire complète du Christ sur la mort, jusque dans les dimensions de l'univers lui-même. Alors, le Christ remettra toutes choses au Père, et Dieu sera tout en tous. Alors, je m'arrêterai là pour ce développement qui voulait compléter, achever un dernier chapitre, et je m'apprête donc à aborder la conclusion générale du parcours, à moins qu'il y ait d'autres questions sur ce que je viens de dire. Est-ce que j'ai cité Jean depuis? C'est possible, mais je ne me souviens plus. J'ai cité Saint Paul, mais c'est possible que j'ai cité Jean. Je ne vois pas. En tout cas, Apocalypse, chapitre 20, versets 4 à 6, hein, le texte dont je... Voilà. Alors, je voudrais maintenant m'engager dans une conclusion du parcours qui sera en fait moins une conclusion qu'une ouverture, ou si vous voulez, qu'une reprise thématique en forme d'ouverture. Parce que je crois que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt de résumer ou de répéter ce que j'ai dit. Et je pense qu'il est plus intéressant de franchir encore de nouveaux pas à l'occasion de cette conclusion. J'ai eu l'occasion à plusieurs moments du cours de souligner que dès les origines, on avait trouvé un certain nombre de mots, d'expressions pour les appliquer à Jésus. On voit ça dans le Nouveau Testament, hein, Jésus comme Christ, Jésus comme le Fils de l'homme, Jésus comme le Fils de Dieu, etc. Puis j'ai aussi fait référence aux tentatives des christologies contemporaines, par exemple certaines christologies africaines qui prennent tel ou tel mot, comme le mot d'aîné ou de guérisseur ou d'ancêtre, pour l'appliquer à Jésus. Alors, je vais faire au fond quelque chose d'analogue. Mais il y a une infinité de titres possibles, il y a une infinité de noms possibles que l'on puisse appliquer à Jésus, à la mesure même du caractère incommensurable du mystère de Jésus. Et donc, je fais un choix. Je me contente simplement de quelques titres, mais je choisis ceux-là parce qu'ils vont me permettre, en fait, de reparcourir beaucoup d'aspects de la réflexion christologique. Et les titres que je retiens, c'est le titre « Le médiateur », Jésus le médiateur. Deuxièmement, le titre que nous trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Je prends évidemment ce deuxième titre, puisque j'ai intitulé le cours « Jésus-Christ, chemin vers le Père ». La métaphore du chemin m'intéresse tout à fait. Et puis, je choisis un troisième titre que j'intitule, enfin, qui est le titre « Le Fils de l'homme », un titre qui vient lui aussi des Écritures. Et, si vous voulez, j'organise une sorte de réflexion plus systématique autour de ces trois titres, en méditant sur ces trois titres. Premier titre tout à fait essentiel, « Jésus-Christ, le médiateur ». Jésus-Christ n'est pas simplement un intermédiaire, il n'est pas un simple intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est, au sens strict, médiateur entre Dieu et les hommes. Je cite ici une expression de saint Paul dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et juste après, il y a, au verset suivant, c'est verset 5, la mention de Jésus-Christ comme l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Peu importe ici que ce mot médiateur soit relativement peu employé dans le Nouveau Testament, bon, quand même dans l'Épître aux Hébreux, hein, il est beaucoup fait référence à la médiation du grand prêtre, hein. Ce qui m'intéresse, c'est que ce titre, le médiateur, même s'il est employé de façon finalement assez rare dans le Nouveau Testament, dit quelque chose de tout à fait essentiel sur l'identité de Jésus de Nazareth. Jésus n'est pas un simple intermédiaire, puisque en français, en langue française, nous avons au fond ces deux termes. Ça n'existe pas forcément dans toutes les langues, mais en français, nous avons intermédiaire, qui est un mot relativement large, tandis que médiateur a un sens plus précis, au moins dans l'esprit de saint Paul, tel que au sens où saint Paul l'utilise dans la première épître à Timothée. Bon, intermédiaire entre Dieu et les hommes, ce serait au fond une notion relativement vague. On pourrait dire un saint, par exemple, un saint, une sainte est intermédiaire entre Dieu et les hommes, ou bien un ancêtre dans les sociétés traditionnelles africaines, qui est reconnu parfois, dans les meilleurs des cas, comme une sorte d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais les saints, les saintes sont des humains. Ils ne sont pas Dieu. Ils deviennent fils de Dieu, bien sûr. Mais au sens strict, ce sont des créatures humaines. Jésus-Christ, lui, il est, comme dit saint Paul, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Ça veut dire qu'il n'est pas un simple intermédiaire, pas même simplement un intermédiaire éminent entre le ciel et la terre. Faut dire que Jésus-Christ est simplement un intermédiaire entre Dieu et les hommes, au fond, ça serait une façon de retrouver la position d'Arius. Lorsque Arius disait « le Fils de Dieu est une créature ». Créature supérieure aux autres, mais néanmoins une créature. Or, à cela s'oppose l'affirmation chrétienne selon laquelle Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Ça veut dire qu'il n'est pas simplement un intermédiaire entre Dieu et les hommes, il est lui-même dans sa propre personne, du côté de Dieu et du côté des hommes. Il est inséparablement fils de Dieu et fils de l'homme. C'est ça qui est le point tout à fait essentiel. Jésus-Christ n'est pas moins homme sous prétexte qu'il est né de Dieu, et inversement, il n'est pas moins Dieu sous prétexte qu'il est vrai homme. Il est inséparablement, dans l'unicité de sa personne, il est inséparablement vrai Dieu et vrai homme. Il est vraiment fils de Dieu et fils de l'homme. Ce que la doctrine de Calcédoine traduisait dans le langage que nous avons vu, une personne en deux natures, consubstantielle à Dieu selon la divinité, consubstantielle à nous selon l'humanité. Ça ne signifie pas qu'il y ait une sorte de juxtaposition du divin et de l'humain en Jésus-Christ. Cela signifie que le Verbe de Dieu est devenu homme sans cesser d'être le Verbe de Dieu. Autrement dit, ça veut dire que Dieu même s'est donné à voir en Jésus de Nazareth. Dieu même s'est donné à connaître en Jésus de Nazareth. Je ne fais ici que commenter l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 18. Dieu, nul ne l'a jamais vu, mais le Fils nous l'a fait connaître. Et au fond, cet homme Jésus est non seulement l'expression, mais la manifestation, l'incarnation même de Dieu. Voilà ce que signifie la médiation du Christ, l'unique médiation du Christ. Ça signifie que l'être de Dieu s'est manifesté en cet homme, Jésus de Nazareth. Alors, cette affirmation mérite encore d'être précisée et approfondie. Parce qu'évidemment, c'est une affirmation qui, dans sa simplicité même, est d'une portée inouïe. De quel autre être humain pourrait-on dire qu'il est inséparablement homme et Dieu? Impossible. Il y a là vraiment quelque chose qui dit l'originalité radicale du christianisme. Et donc, il faut encore approfondir la portée, le sens de cette affirmation, en nous appuyant, bien sûr, sur ce que nous avons vu tout au long du parcours. Dire que Jésus-Christ est médiateur entre Dieu et les hommes, cela implique qu'il s'agisse de la médiation humaine de Dieu et qu'il s'agisse bien du Verbe de Dieu devenu homme. C'est ce que j'ai écrit sur la feuille du plan. Je voudrais maintenant commenter chacune de ces précisions. Ça veut dire donc tout d'abord qu'il s'agit de la médiation humaine de Dieu lui-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense à ce qu'on lit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, alentour des versets 8-9, Jésus qui dialogue avec, qui parle à ses disciples dans le discours après la scène, et Jésus dit « Qui m'a vu a vu le Père ?» En réponse à la question « Mais comment connaître le Père ?» Jésus répond « Qui m'a vu a vu le Père ?» C'est Philippe qui avait posé la question. « Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. » Jésus répond « Qui m'a vu a vu le Père ?» Alors que veut dire cette expression? Elle ne veut pas dire que la vision de Jésus, de l'homme Jésus, soit de même nature que la vision du Père. Parce que quand on voyait Jésus, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait un homme. Et beaucoup de gens voyaient cet homme Jésus sans pour autant croire. Des pharisiens qui ne croyaient pas en lui, tous les adversaires de Jésus, ils voyaient bien cet homme Jésus. Et pourtant, ils ne voyaient pas le Père. Alors, vous voyez, que veut dire cette expression « Qui m'a vu a vu le Père ?» Cette expression ne signifie pas que la vision de l'homme Jésus soit de même nature que la vision du Père. Autrement dit, la vision du Père suppose, en réalité, le dépassement d'un regard qui s'arrêterait seulement à la chair de Jésus. Si je m'arrête seulement au corps de Jésus, si je m'arrête seulement à la chair de Jésus, si je m'arrête seulement à ce que je vois, à ce que je perçois de Jésus, je vois simplement un homme. La vision du Père suppose, certes qu'on reconnaisse Jésus comme un homme, mais ça suppose aussi et surtout que l'on dépasse une vision qui s'arrêterait seulement à la chair du Fils de l'homme. Qui m'a vu a vu le Père, ça signifie en réalité que le Verbe fait chair est radicalement uni à son Père. En sorte que celui qui contemple en vérité Jésus, celui qui contemple en vérité Jésus, s'ouvre par là même au mystère même de Dieu. En d'autres termes encore, il faut voir le Christ. Il faut voir Jésus pour voir le Père, mais on ne peut voir le Père que dans la mesure où la vision du Christ n'est pas la simple fixation sur le visage humain de Jésus. On ne peut voir le Père que dans la mesure où la chair et le visage de cet homme Jésus, ce visage humain, ne sont pas considérés comme des idoles, mais deviennent plutôt, pour celui qui les regarde, comme l'icône de Dieu, comme l'icône de celui qu'aucune image n'enfermera jamais. C'est ce qui fait d'ailleurs que souvent on entend dire, mais quand même, si on avait vécu à l'époque de Jésus, si on avait vu Jésus, on aurait plus de facilité pour croire en lui. Non. Non. On voit bien dans les évangiles que beaucoup ont vu Jésus et n'ont pas cru en lui. Alors, c'est très important de pouvoir se représenter Jésus par la mémoire, par l'imagination. C'est ça que nous convient les contemplations des scènes évangéliques. Mais dans les représentations même que nous avons de lui, dans la mémoire, dans l'image que nous nous faisons, que nous recevons de l'humanité de Jésus, nous sommes nous-mêmes appelés, comme les contemporains de Jésus, à opérer ce même dépassement, ne pas nous en tenir à la simple considération du visage et de la corporéité de cet homme Jésus, mais pouvoir reconnaître comment cet homme Jésus est radicalement uni à son Père. En quelque sorte, le Christ manifeste sa divinité par sa manière même d'échapper aux mains de Marie-Madeleine qui chercherait à le retenir. Le Christ manifeste sa divinité par sa manière même de disparaître de l'auberge d'Emmaüs au moment même où les disciples le reconnaissent à la fraction des pains. Voilà. C'est pourquoi je dis cette médiation humaine de Jésus, c'est la médiation humaine de Dieu. Voilà. De Dieu. C'est la médiation de Dieu même dans l'humain. Celui qui a vu le Verbe incarné il y a 2000 ans, ou celui qui aujourd'hui contemple le Verbe incarné dans les mystères de sa vie, à travers sa prière en particulier, celui-là ne voit pas seulement la chair et le visage du Verbe, mais il est plutôt conduit à une sorte d'exode, à un dépassement qui lui fait dépasser les images reçues pour se laisser entraîner au-delà de ces images vers de nouvelles images du Christ et par là même introduit au mystère de Dieu, le Père. La médiation du Christ, c'est la médiation de Dieu même et par le fait même qu'elle est la médiation de Dieu même, cette médiation ne porte pas atteinte au mystère de Dieu, elle ne rétrécit pas l'espace illimité et infini de Dieu, mais elle désigne au contraire la profondeur de son mystère. Je crois que l'art de l'icône nous aide spécialement à comprendre cela. Parce que l'icône, on voit bien, Jésus, c'est très humain. Mais toute l'expérience à laquelle nous invite justement l'icône, c'est l'expérience de ce dépassement. Dans et à travers cette vision de l'humanité de Jésus, pouvoir se laisser introduire dans le mystère même de Dieu. Qui m'a vu, a vu le Père. Donc d'un côté, cette médiation, c'est bien la médiation de Dieu même. Mais, autre versant, il s'agit du Verbe de Dieu devenu homme. Si vous voulez, je prends ici l'autre côté. Là, je viens d'insister sur le fait que c'est Dieu même, qui se manifeste en et par cet homme Jésus. Maintenant, j'insiste sur l'autre versant. Dieu se manifeste ainsi dans et à travers l'humanité du Verbe fait chair, humanité vécue jusqu'au bout. Ce deuxième versant, tout à fait complémentaire du premier, ce sont les deux faces du mystère, hein, vrai Dieu et vrai homme, est d'une extrême importance, tout comme le précédent. Il s'agit du Verbe de Dieu devenu homme. Voilà. Et il importe de mesurer les implications de ce devenir homme. On s'étonne parfois de l'extrême particularité de l'incarnation. Bon, Jésus est né un jour du temps, il y a 2000 ans, et non pas une autre époque. Jésus a été homme, et non pas femme. Jésus est né au sein du peuple juif, et non pas parmi les Grecs, ou en Extrême-Orient, ou dans les Amériques. Oui, particularité extrême de l'incarnation. Mais cela est précisément impliqué par l'incarnation elle-même. Parce que la particularité qui fut celle de Jésus de Nazareth, comme homme, comme juif, ne signifie pas, évidemment, que Dieu préfère l'homme à la femme. Ça ne signifie pas que Dieu préfère les juifs aux grecs. Ça ne signifie pas que Dieu préfère l'époque d'il y a 2000 ans à la nôtre, ou à celle d'il y a 4000 ans. Simplement, cette particularité atteste que Jésus-Christ est vraiment médiateur entre Dieu et les humains, puisque sa consubstantialité avec la nature humaine l'a mis dans la situation qui est celle de tout être humain, à savoir la situation d'être homme ou femme, mais pas les deux à la fois, d'être juif ou d'une autre nation, mais pas les deux à la fois, de vivre à telle époque particulière et pas à toutes les autres époques à la fois. Particularités qui sont réelles, mais qui sont inhérentes à l'incarnation elle-même. C'est bien pour cela qu'on prenne les choses du côté de Dieu ou du côté de l'homme, c'est bien pour cela que Jésus se révèle à nous comme étant, au sens le plus strict de l'expression, médiateur entre Dieu et les hommes. Mais il reste un pas supplémentaire à franchir. C'est que cette médiation de Dieu devenu homme, cette médiation du Verbe fait chair, cette médiation qui a pour caractéristique que Dieu est d'un côté comme de l'autre, pleinement, non pas un simple intermédiaire, mais vraiment Dieu et vraiment homme. Eh bien, cette médiation, si on y réfléchit, elle implique un renoncement. Je disais tout à l'heure, il ne faut pas comprendre cette médiation du Verbe fait chair comme étant de l'ordre d'une juxtaposition entre la nature divine et la nature humaine. Pour le dire de façon imagée, on ne va pas imaginer qu'il y avait 70% de divinité et 30% d'humanité, ou l'inverse, évidemment. Il ne faut pas être dupe ici du langage « les deux natures ». Alors, il ne faut donc pas penser en termes de juxtaposition entre la divinité et l'humanité. Il faut comprendre que c'est Dieu qui est lui-même devenu homme en Jésus de Nazareth. Mais pour nous permettre de peser et d'approfondir le sens de cette expression, alors je proposerai volontiers une formule alternative. Au lieu de dire simplement Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, ce qui est juste, ce qu'il faut dire à la suite de saint Paul, au lieu de dire simplement Jésus-Christ est médiateur entre Dieu et les hommes, je dirais volontiers Jésus-Christ, le médiateur, n'est pas seulement Dieu, il n'est pas seulement homme. Il n'est pas seulement Dieu, il n'est pas seulement homme. Bon, on pourrait faire observer que ça revient au même. Dire que Dieu est inséparablement Dieu et homme, c'est la même chose que de dire Dieu n'est pas simplement Jésus-Christ n'est pas simplement Dieu, il n'est pas simplement homme. Oui, c'est la même chose. Mais je dirais, il y a une vertu propre de la négation. Il y a une vertu propre de la négation. En disant que Jésus-Christ, que le médiateur, n'est ni seulement Dieu, ni seulement homme, je tire en fait l'implication logique de la formule Jésus-Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes. Et cette implication, elle s'exprime par la voie d'une négation. Il n'est pas seulement Dieu, il n'est pas seulement homme. Ça veut dire que le médiateur entre Dieu et les hommes ne peut être médiateur que moyennant un renoncement à être exclusivement Dieu ou exclusivement homme. Il n'est médiateur que moyennant un renoncement à être exclusivement Dieu ou exclusivement homme. Renoncer à être exclusivement Dieu et exclusivement homme, tout en étant vraiment Dieu et vraiment homme, cela implique que Dieu et l'homme ne sont pas simplement juxtaposés dans la personne du médiateur, mais ça implique que Dieu et l'homme ne peuvent être unis que moyennant un renoncement, moyennant un dépouillement, ou, si vous préférez un terme technique, moyennant une kénose. C'est précisément cette kénose que suggère la formule négative. Le médiateur n'est ni seulement Dieu, ni seulement homme. Le Christ n'est médiateur entre Dieu et les hommes qu'en raison même de son propre dépouillement. tout fils qu'il était, il n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Si le médiateur unit en lui le divin et l'humain, c'est précisément par son renoncement au rang qu'il égalait à Dieu. Il ne suffit donc pas de dire que la médiation de l'homme-Dieu, c'est ce qui rend possible l'événement pascal. Bien sûr, hein, la médiation de l'homme-Dieu dans l'incarnation, c'est ce qui rend possible la mort du Christ et sa résurrection. Mais il ne suffit pas de dire que cette médiation de l'homme-Dieu conduit à l'événement pascal, en le rendant possible d'ailleurs, mais il faut dire que cette médiation de l'homme-Dieu est en elle-même une Pâque. Elle est en elle-même un chemin de mort et de vie. Chemin de mort, puisque le médiateur n'est médiateur entre Dieu et les hommes qu'en renonçant à ce que j'appellerais la suffisance du divin. Il ne veut pas être seulement Dieu. Mais chemin de vie aussi, puisque par la voie de ce renoncement, par la voie de ce dépouillement, par la voie de cette kénose, eh bien, le médiateur est vraiment médiateur entre Dieu et les hommes. Il accomplit la communication du ciel et de la terre. Au fond, le médiateur, Jésus-Christ, médiateur entre Dieu et les hommes, atteste par sa propre personne que Dieu et l'homme ne s'excluent pas. Jésus-Christ atteste par sa personne de médiateur que Dieu et l'homme ne s'opposent pas. En sorte que Dieu, sans cesser d'être Dieu, peut se manifester pleinement comme homme et que l'homme, Jésus, peut être dans son humanité même la parfaite expression de la divinité. Oui. Conclure en disant finalement que la médiation du Christ, Christ médiateur entre Dieu et les hommes, la médiation du Christ, elle est un mouvement, elle est un passage, elle est une Pâque. Rappelez peut-être ce texte d'Origène que j'avais cité un jour, Origène qui disait dans une homélie, le Verbe de Dieu devenu homme, et puis il a souffert. Mais Origène a porté ce correctif. D'abord, il a souffert, puis il est devenu homme. C'est impressionnant. Ce que Origène avait en vue, c'est que précisément, la Pâque du Christ révélait déjà une première Pâque, en quelque sorte, une première passion du Christ dans l'événement même de l'incarnation. Et Origène disait, cette passion, c'est la passion de la charité. Voyez comment ce premier titre, je me suis concentré pendant une demi-heure, simplement sur ce mot médiateur, mais ce mot médiateur, si on scrute au fond la portée de cette formule paulinienne, médiateur entre Dieu et les hommes, ce mot nous fait reparcourir finalement les grands axes du mystère, de l'identité de Jésus-Christ, pleinement fils de Dieu et vraiment homme. Fils de Dieu et fils de l'homme. Alors, après la pause, nous explorerons de la même manière d'autres mots, d'autres titres christologiques qui nous permettront de revisiter d'autres aspects de notre parcours et aussi d'apporter encore quelques éléments supplémentaires pour nous aider à approfondir encore cette compréhension de l'identité du Christ. Pause maintenant. Vous vous rappelez peut-être que la première fois que j'ai introduit le thème de la médiation du Christ dans ce cours, c'était au moment où je présentais les développements récents des christologies africaines, ce que je disais avec les réflexions sur la médiation de l'ancêtre dans certaines traditions africaines, on était renvoyé à une réflexion de fond sur ce que signifie la médiation du Christ. Donc, de cette manière, c'est ce que je viens un petit peu de développer maintenant. Et puis, quand on était passé ensuite aux christologies asiatiques, j'avais indiqué que l'une des grandes questions qui se posent aujourd'hui dans le contexte de l'Asie, c'est la question, enfin, comment rendre compte du Christ dans un contexte de pluralisme, pluralisme religieux en particulier. Alors, ceci m'introduit à la deuxième étape de cette conclusion, où je voudrais partir de ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Dans le Concile Vatican II, dans la déclaration Nostra Aetate sur les relations de l'Église catholique avec les autres religions, les religions non chrétiennes, il y a un paragraphe central dans lequel il est dit « L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Toutefois, elle est tenue d'annoncer Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. » Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette expression. Et à travers cette expression, la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est cette question qui est difficile, qui est radicale même. Comment penser l'unicité du Christ dans un monde marqué par une pluralité, pluralité de croyances, pluralité de religions, pluralité de traditions, etc. Face à cette question, je voudrais d'abord redire que la tradition christologique nous offre des principes de discernement. Je crois pour ma part que les débats de l'Église ancienne, les débats qui nous ont longuement retenus à propos du Concile d'Éphèse, du Concile de Chalcédoine notamment, ce sont des débats qui, bien sûr, étaient situés historiquement, mais ce sont des débats qui gardent une portée considérable pour nous aujourd'hui, précisément sur cette question, pour nous aider, au fond, à rendre compte de ce qui fait l'originalité irréductible du Christ dans un monde pluraliste. Je m'explique un tout petit peu. Vous rappelez que les controverses christologiques du 5e siècle étaient principalement au nombre de deux. Il y avait les controverses avec le nestorianisme et les controverses avec le monophysisme. Et le Concile de Chalcédoine a répondu aux erreurs de Nestorius et de Tychès. Eh bien, la position monophysite de Tychès, je commence par elle, même si chronologiquement elle était la seconde, Eutychès c'est 20 ans après Nestorius. La position monophysite de Tychès, c'est un rappel que je fais, elle consistait à affirmer l'existence d'une seule nature du Christ. Et Eutychès affirmait cela dans un sens qui impliquait une sorte d'absorption de l'humanité par la divinité. Bien, on pourrait dire, de façon comparable, serait monophysite une position qui, aujourd'hui même, au nom même de l'unité de Jésus avec Dieu, ne reconnaîtrait pas suffisamment l'autonomie de l'homme Jésus, serait monophysite une position qui, au nom même de l'insistance sur l'unité de Jésus avec Dieu, ne reconnaîtrait pas suffisamment la particularité historique de son événement dans un temps, de son enracinement dans un temps et dans un lieu donné. Voilà. Au fond, serait une monophysite aujourd'hui, si on reprend cette expression ancienne, serait monophysite une position qui dirait, au fond, l'expérience religieuse qui a vu le jour en Afrique ou en Asie n'a absolument aucune valeur comparativement à ce qui s'est passé en Jésus-Christ. Et il n'est pas possible d'être en relation avec le vrai Dieu si on n'accède pas à la connaissance explicite de Jésus-Christ. Voilà. On voit bien que ce serait quand même problématique, parce que ça reviendrait à contredire ce que dit Vatican II, l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les autres religions. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier, je l'ai dit tout à l'heure, la particularité historique de Jésus, son enracinement dans un peuple, une culture donnée à un moment déterminé de l'histoire. Mais ce n'est pas une raison pour dire qu'il n'y a rien de vrai ou qu'il n'y a rien de saint dans d'autres traditions religieuses de l'humanité. J'essaye au fond de suggérer ce que serait un avatar, si je puis dire, de la position monophysite aujourd'hui. Mais à l'inverse, il pourrait y avoir aussi un écueil opposé. À l'extrême opposé, il pourrait y avoir une forme de nestorianisme, ou une tentation de nestorianisme aujourd'hui. Alors, en quoi consisterait cette tentation ? Nous nous rappelons, la position nestorienne, c'est la position qui, jadis, tendait à une certaine séparation entre l'humanité et la divinité de Jésus. La position nestorienne, c'est une position qui refusait d'attribuer au Verbe de Dieu lui-même ce que l'on disait à propos de l'homme Jésus. Nestorius refusait de dire que Marie est mère de Dieu. Voilà. Ça le gênait de laisser entendre qu'on pouvait appliquer au Verbe de Dieu ce que l'on disait de l'homme Jésus. Voilà. Dans ses conséquences ultimes, en fait, ce n'était pas la pensée de Nestorius, mais si on allait jusqu'au bout des implications de la pensée de Nestorius, ça risquait d'en venir à laisser entendre une sorte de séparation entre l'homme Jésus et le Verbe de Dieu. Eh bien, je dirais de façon analogue, serait nestorienne aujourd'hui une position qui, au nom même de l'autonomie de l'homme Jésus, au nom de la particularité de son enracinement historique, on viendrait à dire que, au fond, dans d'autres cultures, dans d'autres religions, il y a des manifestations du divin qui sont tout à fait équivalentes à celles que la foi chrétienne reconnaît à propos de Jésus. Voilà. Serait nestorienne une position qui reviendrait à dire Dieu a habité l'homme Jésus comme dans un temple, et bon, il a pu de la même manière habiter telle ou telle figure importante de la tradition hindoue, de la tradition chinoise, etc. Mais vous voyez, on dirait cela dans un sens tel que, à la limite, on laissera entendre que tout cela est équivalent. Et que Jésus-Christ, c'est simplement une manifestation du divin parmi beaucoup d'autres manifestations du divin. Position qui, là encore, poserait problème, parce qu'elle ne ferait pas suffisamment droit à l'originalité irréductible de Jésus-Christ. En effet, éviter les deux écueils que je viens de dire, c'est reconnaître en Jésus-Christ, selon les termes du Concile de Chalcédoine, une personne en deux natures. Et cela revient donc à dire tout à la fois que l'histoire de Jésus est particulière, évidemment, au nom même de l'incarnation. Le Fils de Dieu a assumé toutes sortes de particularités en son temps, dans le lieu qui était le sien. L'histoire de Jésus est particulière et, en même temps, elle est irréductible à tout autre. Autrement dit, Jésus-Christ n'est pas simplement une manifestation du divin parmi d'autres. Dire cela ne revient pas à mettre en cause la grandeur d'autres figures religieuses éminentes dans l'histoire de l'humanité. Bouddha était une figure, Gautama, le Bouddha, était une figure éminente, certainement, de sainteté. Mais dire cela ne peut conduire à dire pour autant, du point de vue de la théologie chrétienne, qu'il y a une pure et simple équivalence. Il y a, nous pouvons, du point de vue de la théologie chrétienne, reconnaître en effet une diversité, une pluralité de manifestations du divin dans l'histoire de l'humanité, et en même temps, du point de vue de la foi chrétienne, hein, ça n'engage que les chrétiens, bien sûr, hein, c'est la confession de foi chrétienne, hein, on ne peut pas imposer cela à tout être humain de bonne volonté, hein, c'est un acte de foi. Du point de vue de la foi chrétienne, il y a en même temps quelque chose de tout à fait original, irréductible et vraiment unique dans l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, pour les raisons que nous avons vues longuement, enfin, à la faveur de notre parcours. Hein. Tout ce qui a trait à son incarnation, à son message, à sa mort et à sa résurrection. Donc une théologie chrétienne doit à la fois reconnaître que Dieu, certes, a pu et peut se communiquer aux hommes et aux femmes par les voies culturelles et religieuses les plus diverses dans l'histoire de l'humanité, hein, puisque l'expérience humaine de Jésus comme telle, en tant qu'expérience particulière, ne pouvait épuiser toutes les possibilités de la manifestation du divin. Et en même temps, une théologie chrétienne doit reconnaître que Dieu s'est néanmoins communiqué en Jésus-Christ d'une façon unique. Et d'une façon unique, non pas simplement au sens où tout être humain est unique. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui m'avait dit « Vous dites que Jésus-Christ est unique, vous savez, tout être humain est unique, moi aussi je suis unique, vous aussi vous êtes unique. Ben, » Je lui avais dit « Oui, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que Jésus-Christ est unique dans un sens unique. Ah, » que j'aurais répondu. Ah, unique dans un sens unique. Au sens, en effet, où Jésus-Christ, cet homme Jésus, est radicalement uni à Dieu, puisqu'il est le devenir homme du Fils, seul engendré, éternellement engendré. Voilà. Alors, nous touchons un point délicat, parce que cette affirmation de l'unicité du Christ, le chemin, la vérité et la vie, elle est perçue parfois comme une sorte de prétention un peu impérialiste, hein, du christianisme. Et ça s'explique historiquement, hein, ça s'explique par certains aspects de l'histoire des missions. Il y a eu de grandes choses dans l'histoire des missions, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des manières de faire, des manières d'être qui ont donné cette image, hein, qui ont inculqué cette image d'un christianisme un peu impérialiste, hein, cherchant à s'imposer sans respecter suffisamment les traditions régionales. Donc il faut reconnaître cela et il faut savoir faire son mea culpa, je dirais, par rapport à ce qui, dans l'histoire du christianisme, et en particulier dans l'histoire des missions, a pu donner cette image malheureusement un peu impérialiste. Mais en même temps, il ne faut pas pour autant perdre de vue, disons, l'affirmation doctrinale de fond. Jésus-Christ unique, comme j'aime bien dire, dans un sens unique. Parce que tout simplement, c'est une affirmation qui est inscrite dans la confession de foi chrétienne. C'est une affirmation qui se fonde sur la révélation de Jésus-Christ comme l'incarnation de Dieu, comme le Fils de Dieu devenu homme. Mais encore une fois, il s'agit d'une confession de foi, hein, que nous ne pouvons d'aucune manière prétendre imposer à d'autres. Hein. Mais c'est pas parce que nous ne pouvons pas et ne devons pas l'imposer à l'autre que ne devons pour autant la taire. Je crois qu'il y a une sorte d'équilibre à tenir sur ce plan. Il faut concilier une attitude de respect et d'ouverture maximum aux autres avec, en même temps, le témoignage loyal vis-à-vis de ce qui est inscrit au cœur même de la confession de foi chrétienne. Cela dit, cette affirmation sur Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie, hein, affirmation qui, encore une fois, se fonde, hein, sur l'Évangile et qui est déployée dans l'histoire de l'Église à la faveur des conciles, et notamment du concile de Chalcédoine, sous la forme « une personne en deux natures », etc. Cette affirmation appelle deux corollaires, deux compléments tout à fait essentiels. Tout à fait essentiels. Le premier complément, c'est que la christologie est inséparable d'une théologie de l'esprit. Alors, on dirait que je n'avais pas beaucoup parlé de l'Esprit Saint, sans doute en ce cours, parce que bon, je devais quand même me concentrer sur mon sujet, qui était le Christ, mais je souligne d'autant plus à la fin du parcours que l'insistance sur le Christ comme le chemin, la vérité, la vie, et l'affirmation de l'unicité du Christ, doivent à tout prix s'accompagner d'une insistance non moins grande sur l'esprit, sur l'action de l'esprit. On ne peut insister sur le Christ, unique médiateur entre Dieu et les hommes, si on ne développe pas également le thème de l'esprit qui est à l'œuvre dans le monde. L'esprit qui actualise, en quelque sorte, dans la pluralité des cultures, cette unique médiation du Christ. Ce que je dis là est traditionnel. Alors, je sais bien que à l'époque des Pères de l'Église, ça s'exprimait un peu d'une autre manière. Ça s'exprimait surtout à travers le thème des semences du Logos. Voilà. C'était le thème privilégié des Pères de l'Église. Ils disaient, bon, le Christ est venu une fois pour toutes, mais le Christ n'est autre que le Verbe de Dieu, le Logos de Dieu, qui, mystérieusement, était déjà à l'œuvre dans les siècles précédant la venue du Christ. Et c'était très important de dire ça, parce que ça revenait à dire, du coup, que des hommes qui n'avaient pas pu connaître le Christ, puisqu'ils avaient vécu avant l'incarnation, pouvaient néanmoins être mystérieusement atteints par le salut, par Dieu même. Alors, aujourd'hui, je crois que ça aurait toujours un sens, bien sûr, ça a toujours un sens de reprendre cette tradition, de cette réflexion sur les semences du Verbe. D'ailleurs, le Concile Vatican II l'a fait. Plusieurs fois, le Concile Vatican II fait allusion à cette ou référence à cette doctrine des semences du Verbe. Mais aujourd'hui, certainement, je pense qu'une bonne manière de développer ce thème, c'est justement de faire appel à une théologie de l'esprit. Voilà. Le Christ est bien le chemin, la vérité, la vie. Mais ça ne veut pas dire que des hommes qui n'ont pas connu le Christ, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ça ne veut pas dire que des hommes qui n'ont pas été réellement atteints par l'évangile du Christ ne puissent pas être sauvés. Parce que, voilà, l'Esprit agit mystérieusement. Vous savez, il y a cette belle phrase dans le Concile Vatican II, dans la Constitution Gaudium et Spes, phrase très audacieuse, « L'Esprit Saint offre à chacun, mystérieusement, d'être associé à la passion du Christ, chacun. Donc même à des hommes et des femmes qui, éventuellement, n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Ouais. Donc, l'insistance sur l'unicité du Christ, hein, le Christ comme le chemin, la vérité et la vie, doit s'accompagner inséparablement d'une insistance sur l'action de l'Esprit. Je dis volontiers pour ma part, l'unique n'est pas seul. Le Fils unique n'est pas seul. Alors, non pas au sens où il y aurait un autre unique comme lui, puisqu'il est le Fils unique. Il n'y a pas deux Christ. Mais il n'est pas seul de par son lien essentiel à l'Esprit. L'Esprit du Christ, c'est cet Esprit du Christ qui agit, qui est à l'œuvre, là même où le Christ n'est pas visible, là même où le Christ n'est pas connu. Donc ça, c'est le premier complément que je voulais absolument ajouter. Alors, le second complément qu'il faut ajouter, c'est une petite réflexion sur le thème de la kénose, ou disons sur le lien entre unicité et kénose. Parce que la question, c'est une question importante, profonde, hein, qu'on entend parfois, notamment on l'entend parfois dans le cadre du dialogue avec l'hindouisme ou le bouddhisme, c'est la question suivante. D'accord, vous dites, vous chrétiens, Dieu, est devenu homme en Jésus-Christ une fois pour toutes, le Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Mais tout de même, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu qu'il y ait en quelque sorte une répartition plus équitable, si je puis dire, hein, que n'aurait-il pas mieux valu que Dieu, au lieu de s'incarner de façon unique en cet homme Jésus, se manifeste de façon équitable, égale, dans toutes les traditions de l'humanité. N'aurait-il pas mieux valu, en quelque sorte, que Dieu ne fasse pas de jaloux. Voilà. Alors, c'est une question importante, difficile d'ailleurs. Mais je pense personnellement que la bonne manière de faire face à cette question et d'y répondre, c'est justement de faire paraître le lien entre l'affirmation de l'unicité du Christ et cette thématique de la kénose dont j'ai parlé plusieurs fois. Je repars, si vous voulez, de ce que dit l'hymne de l'Épître aux Philippiens. Le Fils n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. C'est-à-dire que la théologie chrétienne tient que le Fils unique est effectivement le Fils unique et que Dieu s'est manifesté en lui de manière unique. Mais précisément, comment se révèle cette unicité du Christ ? Elle se révèle comme l'unicité de celui qui n'a pas voulu retenir le rang qu'il égalait à Dieu. Et si cet unique s'est donné jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque sur la croix, c'est pour la multitude. Approfondir ce lien entre l'unicité et la kénose, c'est se donner le moyen, au fond, de reconnaître que en Jésus-Christ, se manifeste le contraire de la jalousie. En Jésus-Christ se manifeste de la manière la plus radicale une kénose. Une kénose qui est justement le renoncement à ceux-là même dont le Fils aurait eu le droit de jouir. Tout fils qu'il fût, il n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu. Je pense qu'il y aura certainement une piste de réflexion à poursuivre, à approfondir dans ce sens pour tout à la fois tenir, parce que je crois que c'est essentiel de le tenir du point de vue chrétien, cette affirmation de l'unicité du Christ, le chemin, la vérité, la vie, et en même temps de faire comprendre que cette unicité n'est pas une unicité exclusive, que ce n'est pas une unicité qui procéderait d'une sorte de prétention jalouse, puisqu'elle se manifeste au contraire, du commencement à la fin, comme une dépossession de soi au profit de la multitude. J'en viens à un troisième et dernier titre que je privilégie parmi beaucoup d'autres, qui pourraient aussi nous retenir. Le titre « Le Fils de l'homme ». En me rappelant notamment un certain nombre de développements qui ont été proposés par les théologies de la libération en Amérique latine, mais en pensant aussi plus largement à toutes les réflexions qui ont été proposées dans le cadre de la théologie européenne, aussi sur d'autres continents, autour de l'humanité du Christ et plus précisément autour de la relation du Christ et des pauvres. Le Fils de l'homme. J'ai dit l'importance massive de ce titre dans les évangiles synoptiques. Les théologies de la libération en Amérique latine ont en quelque sorte accrédité l'idée selon laquelle la christologie doit manifester sa vérité dans une pratique. Je l'avais montré à propos de Yon Sobrino. En parenthèse, j'ai appris que Yon Sobrino va venir en France au mois de février et qu'il donnera ici même une conférence le jeudi 26 février, au soir. Je signale, parce que c'est quand même un événement unique. C'est quand même l'un des grands théologiens latino-américains. Et donc, il viendra le 26 février au soir. Donc, Yon Sobrino et d'autres théologiens de la Libération on soulignait que la christologie doit s'ouvrir sur une pratique qui soit cohérente avec la foi chrétienne. orthodoxie, mais aussi orthopraxie, la praxis. Eh bien, en prenant en compte cet apport des théologies de la libération, mais en lui donnant une extension plus large, hein, qui est valable aussi bien en Europe ou dans d'autres continents, on peut tenter en effet d'approfondir le lien entre la christologie et la tâche pratique de l'humanisation du monde. Au fond, il s'agit de montrer que le devenir homme de Dieu fonde lui-même, si je puis dire, un devenir plus homme de l'homme. Voilà, une tâche d'humanisation. Je m'explique davantage. La théologie classique, hein, les pères de l'Église déjà, ont souvent dit que Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est une formule de saint Athanase, on la trouve déjà presque mot pour mot chez saint Irénée au IIe siècle, en tout cas elle est utilisée par Athanase au IVe siècle. Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Très belle formule. Formule qui est tout à fait juste du point de vue de la théologie chrétienne. Mais ce qu'il nous faut comprendre aujourd'hui, c'est que l'être humain est lui-même appelé à devenir plus homme et mieux homme. Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Oui, l'homme est appelé à devenir Dieu. Mais l'homme est aussi, en même temps et d'abord, appelé à devenir plus homme et mieux homme. Les deux ne sont pas incompatibles, au contraire. Il faut penser le lien des deux affirmations. L'incarnation de Dieu en Jésus-Christ appelle à cette réflexion, puisque c'est précisément dans sa parfaite humanité que le Christ atteste sa filiation divine. C'est dans sa parfaite humanité que le Christ atteste sa parfaite filiation divine. Je dis cela contre toutes les formes de docétisme possibles et imaginables. Donc, en Jésus-Christ, se donne à voir l'humanité de Dieu, et donc l'expérience humaine, c'est le lieu où doit se jouer la relation filiale avec Dieu. Pour le dire autrement, le Fils de l'homme, c'est ce que Dieu accomplit lorsqu'il se retire en lui-même pour qu'advienne son autre, à savoir un autre, un homme qui soit vraiment son image, sa parfaite image. Alors, on pourrait faire valoir ici de nouveau que le Fils de l'homme, Jésus-Christ n'a pu être le Fils de l'homme qu'en étant un être humain particulier, il y a 2000 ans en Palestine. C'est vrai, mais ce que nous avons à recueillir de la tradition, c'est que, au nom même de cette incarnation, au nom même de cette prise au sérieux radicale de l'humanité par le Fils de Dieu, au nom même de cela, d'autres humains, et même tous les humains, sont appelés à être à leur tour, dans leur humanité même, ils sont appelés à être à leur tour à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le Nouveau Testament abonde en textes qui permettent de fonder cette affirmation. Je pense à ce que dit Paul sur la vocation des humains à devenir fils adoptif. Voilà. Fils adoptif. Fils de Dieu par adoption. Bien sûr, le Fils de Dieu est unique, au sens où il est le seul engendré, monogénèse, comme dit saint Jean. Mais les humains, nous dit saint Paul, sont appelés à devenir eux-mêmes, à leur tour, fils de Dieu par adoption. Fils de Dieu est donc frère de l'unique fils, frère du fils unique, frère du fils de l'homme. Vous savez sans doute qu'il y a toute une tradition spirituelle, ce qu'on appelle l'école française de spiritualité, très importante, en particulier au XVIIe siècle, puis à la suite du XVIIe siècle, qui aimait parler du prêtre comme d'un autre Christ. Mais il faut savoir qu'en amont de cette tradition spirituelle, des pères de l'Église n'hésitaient pas à parler du chrétien, dans la mesure où le chrétien est aussi parfait que possible, ils n'hésitaient pas à parler du chrétien comme d'un autre Christ. On trouve ça chez Origène, au IIIe siècle. Les chrétiens comme autre Christ. Donc, le Fils unique, oui. Et en même temps, au nom même de cette prise en compte radicale de l'humanité par le Fils de l'homme, les autres humains sont appelés à devenir eux-mêmes d'autres Christ. On pourrait invoquer un texte fameux de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Il convenait que, voulant conduire à la gloire un grand nombre de fils, celui pour qui et par qui sont toutes choses, rendit parfait par des souffrances le chef qui devait les guider vers leur salut, car le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. C'est le texte le plus radical, je pense, dans cette ligne-là, dans le Nouveau Testament. Le sanctificateur et les sanctifiés, donc le Christ et les humains qui doivent être sanctifiés, ont tous la même origine. C'est pourquoi, continue l'Épître aux Hébreux, c'est pourquoi le Christ ne rougit pas de les nommer frères. Quand il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te chanterai au milieu de l'assemblée. » Donc, Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 10 à 12. Voilà. Donc, le Fils unique, oui, mais le Fils unique, comme Fils de l'homme, appelle justement les humains, les autres humains, à devenir eux-mêmes, dans leur propre humanité, des fils adoptifs, des frères de l'unique, ou encore d'autres Christ. Donc c'est extrêmement important, cette réflexion sur le Christ comme le Fils de l'homme, parce que, au fond, ça attire l'attention sur le fait qu'il n'y a pas à s'évader de l'humain pour mieux trouver Dieu. L'incarnation révèle que c'est au contraire dans l'humain, c'est dans l'élémentaire humain, en quelque sorte, que doit advenir la relation filiale. Les humains, oui ? Oui, c'est à mettre en lien avec ce que j'avais expliqué à propos de la préexistence. C'est-à-dire qu'à la fois, la création n'est pas éternelle, et donc les humains sont appelés à devenir fils adoptifs, et en même temps, ce n'est pas par pur arbitraire que les êtres humains sont venus à l'existence. Selon la tradition chrétienne, je pense à l'hymne de l'Épître aux Éphésiens, dans le dessein éternel de Dieu, il y avait ce désir que justement les êtres humains puissent advenir et être associés au fond à la vie divine et communier à la vie divine. Et en ce sens-là, leur origine est en Dieu, en ce sens-là. C'est par ce biais qu'on peut concilier les deux affirmations. Oui, voilà. Voilà. De ce qui est donc pour le Christ, c'est différent, puisque lui, il est de toute éternité, le Fils. Donc il y a bien une différence qui demeure entre le Fils unique et les fils adoptifs, mais justement, la nouvelle bouleversante du Nouveau Testament, c'est que les créatures sont elles-mêmes appelées à communier, à devenir frères et sœurs du Fils unique. Donc, le Christ ne peut pas leur donner plus, il donne au fond la participation, il offre la communion, la vie divine elle-même. Donc, ça c'est le premier temps, si vous voulez, d'une réflexion sur le Christ comme le Fils de l'homme, au fond, qui aide à réaliser comment, au nom même de l'incarnation, l'expérience humaine est le lieu où se joue, où doit advenir la relation filiale avec Dieu. Alors, la question qui se pose à partir de là, c'est la suivante. Qu'en est-il lorsque l'expérience humaine est sous le signe de la pauvreté ? Parce que Si on s'en tenait à ce que j'ai dit précédemment, on pourrait peut-être laisser croire que la relation de l'homme à Dieu n'est vraiment effective que chez ceux et celles qui, si je puis dire, réussissent en humanité, voilà, ou qui sont dans des conditions leur permettant de devenir plus homme, mieux homme, etc. Et qu'en est-il ? Qu'en est-il des pauvres ? Voilà. Bon, justement, la christologie autorise à dire que cette relation filiale est à l'œuvre aussi, et peut-être même d'abord, chez ceux qui ne partagent pas de telles conditions d'humanisation. La christologie autorise à dire cela en raison de ce qu'on peut appeler la mystérieuse identification entre Jésus-Christ et les pauvres, telle qu'elle ressort en particulier du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, la parabole du jugement dernier. Ce que vous aurez fait aux plus petits d'entre mes frères, bon, en donnant à manger, en donnant à boire, en allant visiter le prisonnier ou le malade, c'est à moi que vous l'aurez fait. Alors il nous faut réfléchir davantage sur cette identification entre guillemets. Comment la comprendre ? C'est pas simple, hein, parce que il faut évidemment pas comprendre cette identification du Christ et des pauvres dans un sens qui cautionnerait une attitude de passivité par rapport à la misère ou par rapport à la pauvreté. Ce serait vraiment une perversion terrible du texte de l'Évangile que de dire « Bon, bah, de toute façon, les pauvres peuvent rester les pauvres, puisque le Christ s'est identifié à eux. » Ce serait une perversion complète du texte de l'Évangile. Mais une fois qu'on a écarté cette fausse piste, alors, oui, on peut accueillir la vérité profonde de cette parabole du jugement dernier, qui est beaucoup plus qu'une exhortation morale. Cette parabole implique, en effet, un lien, disons, à la fois réel et mystérieux entre le Fils de l'homme et le pauvre. Ce que vous aurez fait envers cet affamé, cet étranger, ce malade, c'est à moi que vous l'aurez fait. Parce que ça ne veut pas dire simplement l'amour que vous portez aux pauvres est analogue à l'amour que vous me portez, hein, comme s'il y avait malgré tout une sorte d'extériorité entre Jésus-Christ et le pauvre. Hein. La formule est beaucoup plus radicale. Hein. Ce que vous aurez fait à cet affamé, à ce malade, etc., c'est à moi que vous l'aurez fait. Il y a bien, qu'on le veuille ou non, une mystérieuse identification entre Jésus-Christ et le pauvre. Alors, pour avancer dans la compréhension de cette formule, pouvons dire ceci, il y a bien identification, en effet, entre le Fils de l'homme et le pauvre, au sens où celui qui nourrit l'affamé, qui accueille l'étranger, qui rend visite aux malades, etc., fait cela envers le Fils de l'homme lui-même. Une précision capitale s'impose ici. De même que la dénomination de Jésus-Christ comme Fils de l'homme ne signifie évidemment pas que Jésus-Christ ait été tous les hommes à la fois. De même, en va-t-il pour la dénomination de Jésus-Christ comme le pauvre. Cette précision est tout à fait capitale. Je veux dire par là, l'identification de Jésus-Christ avec le pauvre, en Matthieu 25, ne veut évidemment pas dire que Jésus souffre à la place du pauvre. Il ne veut pas dire que Jésus souffre à la place du pauvre, car, bien évidemment, la souffrance de chacun est unique. Il serait bien étonnant et bien malheureux de dire à un pauvre ou à un malade que c'est Jésus-Christ qu'on vient visiter et non pas lui. L'identification entre le Fils de l'homme et le pauvre, si elle est bien comprise, elle signifie plutôt que les pauvres de notre histoire sont eux-mêmes mystérieusement dans une communauté de souffrance, dans une communauté de passion avec Jésus-Christ. Et qu'en ce sens, Ils ajoutent en quelque sorte à la pauvreté radicale de Jésus-Christ les malheurs de leur propre destinée. En un sens, ils sont en quelque sorte crucifiés mystérieusement avec le Christ. Mais cette identification de Jésus-Christ du pauvre signifie aussi que Dieu rejoint ces pauvres jusque dans leurs conditions inhumaines et qu'un avenir leur est ouvert, hein, puisque précisément le Fils de l'homme, le pauvre parmi les pauvres, a reçu de vivre au-delà de l'humiliation et de la mort. La christologie conduit finalement à dire que pour avoir accès à Dieu, il n'y a pas à s'évader de l'humain, pas même lorsque l'humain se présente sous la figure déshumanisée du pauvre ou défigurée du pauvre. Ce qui veut dire que positivement, la christologie invite à ce qu'on peut appeler une tâche d'humanisation. J'ai déjà employé ce mot tout à l'heure. Il y a de ce point de vue-là un horizon pratique de la christologie. Bien sûr, cette tâche d'humanisation qui est en quelque sorte impliquée par la christologie, cette tâche d'humanisation, elle prendra des formes extrêmement diverses suivant les situations. Ça pourrait être ici une tâche de libération politique, sociale. Ailleurs, ça pourrait être l'opposition à la ségrégation raciale. Ailleurs, ça sera un travail d'éducation scolaire. Ailleurs, ce sera une défense de l'environnement. Ailleurs, ce sera une tâche de création artistique. Enfin, ça pourra prendre quantité de formes. Mais ce que je veux dire, c'est que, au nom même de cette prise au sérieux radicale de l'humain, telle qu'elle est attestée par la doctrine de l'incarnation, eh bien, la christologie appelle une tâche d'humanisation, quelles qu'en soient les formes. Pour le redire à nouveau, le devenir homme de Dieu appelle l'être humain à devenir plus homme pour qu'en lui se manifeste précisément l'humanité de Dieu et pour que tout être humain puisse devenir davantage à l'image de Dieu. Et donc, si vous voulez, c'est le dernier point de mon développement. La christologie serait en quelque sorte incohérente avec son principe même si elle n'ouvrait pas à une pratique au sens large du mot, pratique individuelle, de cohérence avec ce qui est l'objet de la foi christologique, ou bien pratique qui peut s'inscrire dans des dimensions éducatives, sociales, comme je viens de le préciser un instant. En parlant d'un horizon pratique de la christologie, on dit à la fois que la christologie a devant elle la perspective d'un agir, et on dit en même temps que cet agir limite le discours ou la réflexion christologique comme discours ou comme réflexion. On ne peut pas tout faire à la fois. Quand on parle du Christ, on n'est pas en train de visiter un malade, comprenez. Mais en même temps, il faut bien parler du Christ. Mais si on parle bien du Christ, ça doit normalement rendre possible et ça doit urger, disons, l'exigence de visiter des malades. C'est ça que j'essaie de dire. Un horizon pratique de la christologie. Et c'est évidemment cette pratique ou ces pratiques diverses qui sont impliquées par le sens même de l'incarnation et par la vérité de la doctrine christologique, elles sont à leur tour, réciproquement, le point de départ de nouvelles réflexions christologiques. C'est ça, au fond, que nous ont appris les théologies de la libération. Alors, quelques mots, si vous voulez, d'ouverture finale. Oui, j'ai essayé, dans cette conclusion, de retraverser un certain nombre de questions que nous avons longuement étudiées dans le cadre de ce cours. Mais j'essaie de les retraverser de façon originale en apportant des éléments nouveaux et surtout en orientant vers un peu l'actualisation du travail, de la réflexion christologique. Je dirais, pour terminer, ou plutôt pour ouvrir, je dirais qu'à partir de là, sur le fond de ce que j'ai essayé de dire, il y aurait à s'engager dans une nouvelle réflexion qui dépasse évidemment le projet de ce cours. y aurait à s'engager dans une nouvelle réflexion qui tenterait de dire comment l'histoire humaine affecte de quelque façon l'histoire de Dieu même. La christologie n'est pas simplement la réflexion sur ce qui est advenu à Jésus de Nazareth, mais la christologie nous aide finalement à comprendre au terme comment c'est l'histoire humaine qui elle-même serait à penser comme le lieu de la christologie. Pas seulement ce qui est advenu à Jésus de Nazareth, mais l'histoire humaine en son ensemble. J'essayais de montrer dans ce cours comment la destinée de Jésus de Nazareth, et en particulier sa passion et sa résurrection, devait être pensée comme ayant un retentissement dans l'éternité même de Dieu. J'essayais de dire ça à propos de la mort de Jésus sur la croix, à propos de sa résurrection. Comment la destinée de Jésus de Nazareth a de quelque façon son retentissement dans l'éternité même de Dieu. Eh bien, il faudrait tenter de dire, de façon analogue, comment le devenir humain de l'humanité, tel qu'il est pris en charge ou non par les hommes et les femmes de notre histoire, il y aurait à dire comment ce devenir humain de l'humanité retentit à son tour, mystérieusement, dans l'être même du Dieu un et trine. Alors, il faudrait d'abord montrer comment, mais j'ai essayé d'ouvrir dans cette perspective déjà mardi dernier, il faudrait d'abord montrer comment ce qui va contre l'humain et donc contre le divin, au nom même de l'incarnation, il faudrait montrer comment ce qui va contre l'humain affecte de quelque manière le Christ au-delà de sa victoire sur la mort. Nous avons essayé de voir mardi dernier. Rappelons-nous le texte d'Origène, Origène qui comprenait que le péché des hommes affectait de quelque façon le Christ lui-même et le privait de la parfaite allégresse. C'est nous qui, par notre négligence, retardons son allégresse, le mot d'Origène. Donc ce serait un élément de cette réflexion. Il faudrait aussi montrer comment l'histoire continuée de la Passion, à travers les victimes de l'histoire, à travers les oubliés de l'histoire, affecte aussi de quelque façon la vie de Dieu dans son éternel présent. Un théologien chinois, Song, Xuan Sheng Song, qui a parlé de l'histoire de l'humanité comme une longue semaine sainte. De fait, il y aurait à réfléchir sur la manière dont cette histoire continuée de la Passion à travers les victimes de l'histoire, à travers les oubliés de l'histoire, affecte de quelque façon la vie de Dieu en son éternel présent. Mais il faudrait aussi essayer de dire, comment, oui, je prends ici des deux extrêmes, il y a bien sûr tout l'éventail des intermédiaires, mais il faudrait aussi essayer de dire comment l'expérience de la sainteté, là où elle a pu émerger dans l'histoire, François d'Assise par exemple, là où elle continue d'émerger dans l'histoire, qu'on le sache ou non, il faudrait dire comment cette expérience de la sainteté retentit aussi dans l'éternel présent de Dieu, comment cette expérience de la sainteté vécue par des hommes et des femmes au long de l'histoire imprime en l'éternité de Dieu une joie toujours nouvelle. En un mot, il faudrait essayer de penser le retentissement trinitaire de ce qui advient au Fils de l'homme, mais il faudrait penser ce retentissement trinitaire non plus seulement à propos de ce qui est advenu à Jésus de Nazareth, mais à propos de ce qui est advenu ou de ce qui advient encore à travers les membres agissant ou souffrant de son corps. L'histoire de ce corps du Christ et l'histoire de Dieu devraient être pensées dans leur relation même, sans confusion ni changement, sans division ni séparation. Alors, reconnaître la portée d'une telle tâche, c'est au fond comprendre que le souvenir, l'anamnèse de Jésus de Nazareth n'est pas une nostalgie du passé, mais que c'est inséparablement une attention au présent et une promesse de l'avenir. Et surtout, je dirais que ce souvenir, cette anamnèse de Jésus-Christ, au fond, qui était l'objet, le sujet essentiel de notre parcours, cette anamnèse de Jésus-Christ, c'est un souvenir qui ne fait pas simplement que désigner un horizon, mais qui met en route vers lui, un horizon pratique de la Christologie. Et bien sûr, l'horizon reste hors d'atteinte, et nous ne savons pas l'heure de la fin. L'horizon, en tout cas, sera marqué ultimement par la limite de la mort, mais la résurrection du Christ est promesse de ce que cette limite même sera un jour abolie, puisqu'aussi bien elle l'a déjà été au moins en Jésus de Nazareth, mort et ressuscité. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour vos... Continuation, en tout cas, dans le champ de la théologie, au fil de l'année, ou plus tard, dans les années suivantes.